que ce séminaire organisé sous forme de colloque, comme vous l'avez vu, annonce dans son titre des conclusions et des comparaisons. Et il me semble donc nécessaire, en ouverture, de commencer par préciser aussi bien la nature que l'historique de cette recherche, qu'il s'agit aujourd'hui donc, c'est pas totalement prématuré, de conclure. Certes, la majorité des participants, donc des gens qui vont s'exprimer aujourd'hui et demain, connaissent bien cette recherche. Et mieux que cela, un certain nombre d'entre vous y ont déjà contribué et très assidûment. Mais il me semble utile de revenir aujourd'hui sur tout cela, même sans y passer trop de temps. Non seulement utile pour nous-mêmes, pour faire un peu une sorte de point, mais aussi, bien sûr, pour l'auditoire qui est venu assister à ces exposés. Et après m'être livré à cette petite rétrospective, je proposerai quelques considérations sur les enseignements qu'on peut tirer, que nous avons déjà tirés en partie, de cette somme bibliographique que je vais présenter rapidement. Et ces considérations, j'espère, introduiront aux recherches et aux éléments de comparaison qui vont nous être présentés par nos collègues pendant ces deux jours. Alors, à propos de ces éléments de comparaison, je voudrais quand même dire un mot au passage. Si vous voulez, il m'a semblé qu'il pourrait être intéressant, même particulièrement intéressant, de ne pas nous enfermer complètement dans notre univers chinois et sinologique, puisque aussi bien il y a eu historiquement bien d'autres cultures bureaucratiques que celle de la Chine. D'où cette idée que j'ai eue de rythmer en quelque sorte nos exposés sur la Chine en y insérant des considérations sur ces autres cultures venant, si on veut, en miroir. Je remercie donc par avance les auteurs, les collègues qui ont bien voulu venir nous parler de la Mésopotamie cet après-midi, de la Rome impériale ce matin et de l'Europe moderne demain. Et en même temps, au passage, j'exprime deux regrets. Le premier, c'est que M. Baber Johansen, professeur à Harvard, qui devait venir nous parler de la formation des juristes musulmans et de celle des secrétaires de l'appareil politique et administratif dans l'Empire ottoman, a été contraint au dernier moment de renoncer à venir. Donc ça, c'est, j'ai dû le supprimer du programme. Et ensuite, mon autre regret, et là j'en suis en partie responsable parce que je m'y suis pris trop tard, mon autre regret, c'est de ne pas avoir réussi à trouver quelqu'un, un collègue qui aurait pu nous parler du Japon, qui est pourtant tellement intéressant à mettre en regard avec le cas de la Chine, et qui a d'ailleurs, la Chine ayant bien sûr beaucoup influencé mais jusqu'où c'est tout le problème, le système administratif et le système gouvernemental du Japon à de nombreuses époques. Quoi qu'il en soit, et pour y revenir, l'histoire de la recherche dont je vais dire un mot est une histoire fort longue. En fait, j'ai cessé, plus ou moins, parce que c'est parfois un peu déprimant, j'ai cessé de compter les années qui se sont écoulées depuis que l'idée m'est venue de compiler une bibliographie descriptive des manuels d'administration de la Chine impériale, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous allons voir tout de suite tout ce que ce terme recouvre, en fin de compte, plus que ce qu'on pourrait penser. Disons que cette histoire a duré depuis une bonne quinzaine d'années, au bas mot. Mais il ne s'est pas agi simplement d'un long processus d'accumulation de données bibliographiques, ce qui en soi ne serait pas particulièrement intéressant à évoquer. Le contenu, aussi bien que la forme du projet, ont en fait beaucoup évolué en cours de route. Et à vrai dire, je n'imaginais pas du tout au départ à quoi je m'engageais quand j'ai commencé donc à rassembler et à analyser les quelques titres que je connaissais déjà et à faire quelques recherches bibliographiques pour compléter la liste. Pour simplifier, je dirais que j'étais parti d'un genre assez bien connu et que je croyais déjà bien répertorié et qui est donc ce qu'on appelle en français ou en anglais les manuels pour magistrats ou magistrate handbooks, le terme reçu disons en anglais. Étant bien entendu, ça va de soi que le mot magistrat n'est qu'une façon conventionnelle dans notre jargon de désigner les fonctionnaires locaux qui avaient la charge des circonscriptions administratives de base dans la Chine impériale, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore du jargon, parfois les sous-préfectures, dont il y avait à peu près 1200 à 1300 dans l'ensemble de l'Empire. Et en effet, leur responsabilité était bien plus étendue que celle d'un magistrat, entre guillemets, c'est-à-dire d'un juge, même si la partie judiciaire de leur activité tenait incontestablement une très grande place. Et là-dessus, je vais y revenir, Et d'ailleurs, tous ces aspects judiciaires et juridiques, il va en être beaucoup question pendant ces 2 jours, comme vous pouvez le voir sur le programme. Les textes fondateurs de ce genre, donc des manuels pour magistrats, dans la bibliographie traditionnelle chinoise, cette fois-ci, est appelée par le mot guanzhen, hein, que tout le monde connaît, un terme qui signifie plus ou moins admonestation s'adressant aux fonctionnaires. Ces textes fondateurs donc remontent à l'époque des Song, et c'est ce dont va nous parler Christian Lamoureux tout à l'heure. Mais la majorité des titres les plus connus aujourd'hui datent en fait de la dernière dynastie impériale, c'est-à-dire celle des Qing, autrement dit datent des 17e, 18e et 19e siècles. C'est d'ailleurs cela que je connaissais au départ, du moins quelques-uns d'entre eux. Et j'avais été conduit à m'y intéresser d'abord à travers mes recherches sur ce que j'ai appelé l'administration de la famine à l'époque des Qing et en particulier au XVIIIe siècle. Il m'était en effet apparu que les campagnes de lutte contre les calamités naturelles et contre la famine auxquelles je m'étais intéressé révélaient, en tout cas certaines d'entre elles, révélaient une remarquable efficacité de la part de l'appareil d'État. Et aussi que cette efficacité reposait en grande partie sur un degré élevé de préparation. Et je veux dire à la fois sur des infrastructures bien organisées, en l'occurrence surtout un vaste réseau de greniers dont les réserves étaient constamment maintenues à niveau, en tout cas quand les choses se passaient correctement, donc des infrastructures et d'autre part un savoir-faire s'appuyant sur un appareil très élaboré de procédures et de règlements. Pour le dire autrement, ces campagnes de secours en période de famine, donc qui était en fait mon sujet de thèse au départ, n'étaient aucunement des improvisations. Il ne s'agissait pas simplement d'une mobilisation exceptionnelle en période de crise, de ressources matérielles et de personnel, et à l'initiative du trône, donc dans des circonstances elles aussi exceptionnelles, c'était l'ensemble de la bureaucratie territoriale qui devait y être préparée à la fois moralement et techniquement, qui devait savoir ce qu'il y aurait à faire, qui devait mettre en œuvre des procédures bien établies et connues de tous, et tout cela sans temps mort et, encore une fois, sans improvisation. Et c'est là que les manuels font leur apparition. Dans cette recherche, maintenant fort ancienne, dont je parle, il s'agissait d'abord de manuels d'administration de la famine, donc de manuels spécialisés, dont j'ai pu rassembler dès cette époque un nombre non négligeable. Et ces manuels, justement, ne concernaient pas seulement les situations d'urgence, ils ne portaient pas seulement sur les procédures à remettre en œuvre dans de telles situations, enfin quand les gens mouraient littéralement de famine, ces manuels traitaient aussi de sujets voisins, mais tout à fait liés, par exemple l'amélioration de la production agricole, et en particulier l'irrigation, la gestion des réserves publiques de grains, le contrôle des prix, la tenue des registres de population, et ainsi de suite. Autant de tâches qui relevaient en quelque sorte de l'administration générale et quotidienne. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces contenus se retrouvent également dans les manuels d'administration qu'on peut qualifier justement de généralistes. Autrement dit, aussi bien les procédures d'urgence que les politiques de sécurité, donc les mesures de préparation si on veut, faisaient partie d'un stock beaucoup plus vaste de connaissances techniques, de savoir-faire, mais aussi de principes d'éthique professionnelle et personnelle que les fonctionnaires locaux, territoriaux disons, par opposition aux fonctionnaires métropolitains, étaient supposés maîtriser s'ils voulaient être capables de remplir leur mission quotidienne comme ils étaient supposés le faire, c'est-à-dire en obéissant à un double impératif qui est toujours martelé dans tous les manuels, justement. D'une part, servir le régime, c'est-à-dire la dynastie régnante, avec la loyauté la plus absolue, et d'autre part, œuvrer dans l'intérêt des populations. Et il se trouve que ces deux impératifs n'allaient pas parfois sans contradiction, voire même à l'occasion sans cas de conscience. C'est donc à ce savoir généraliste qui recouvre tous les domaines de l'administration que j'ai été conduit à m'intéresser, à son contenu bien sûr, et à la façon dont on essayait de l'inculquer aux serviteurs de l'État, et plus particulièrement, puisque c'est de cela que nous parlons, j'ai été conduit à m'intéresser aux ouvrages qui était supposé transmettre ce contenu, donc au manuel. C'est donc de là qu'est parti ce projet de bibliographie qui nous sert aujourd'hui de point de départ, autrement dit, l'idée de procéder à un inventaire critique et descriptif de tous ces matériaux, et aussi un inventaire qui soit autant que possible complet, exhaustif. J'avoue que mon ambition au départ, c'était de tout couvrir. J'ai un peu réduit mes ambitions depuis, mais malgré tout, autant que possible, complet, et non pas une simple sélection comme on le ferait pour une anthologie. Je disais tout à l'heure que je ne me rendais pas compte de ce à quoi j'étais en train de m'engager, même si je bénéficiais de l'aide de collègues et d'étudiants qui ont accepté de participer au projet à divers moments de son déroulement. Pourquoi est-ce que je ne m'en rendais pas compte, ou quel était plutôt le problème qui s'est peu à peu révélé? Je dirais qu'il y a deux aspects, l'un quantitatif et l'autre qualitatif. Du point de vue de la quantité d'abord, outre les quelques titres que je connaissais déjà, j'avais pris pour point de départ un petit nombre de listes d'inventaires qui existaient, qui étaient publiées à l'époque, donc il y a disons 15-20 ans, et parfois même depuis plus longtemps, ou même simplement renéotées. Je pense au cas d'une des meilleures listes de manuels pour fonctionnaires qui avait été établie dans les années 50, je crois, par des spécialistes japonais qui avaient essayé de trouver tout ce qui existait dans les bibliothèques japonaises, justement. Et à partir de ces matériaux, je pensais qu'il y aurait, et en faisant quelques recherches, il y aurait peut-être, disons, une bonne centaine de manuels pour fonctionnaires, de manuels pour magistrats, que j'aurais donc dont j'aurais à faire la liste et que j'aurais à analyser. Or, dès que j'ai commencé, ou plutôt que nous avons commencé à explorer les bibliothèques, à travers les catalogues publiés d'abord, lorsqu'ils existaient, et ensuite sur place, et même quand c'était possible, et c'est pas toujours possible malheureusement, directement dans les rayons, en Europe, en Amérique, en Chine c'est pas possible d'aller dans les rayons en général, à Taïwan c'est plus difficile, et au Japon c'est possible. Dès lors que nous avons commencé cela, nous nous sommes vite rendus compte qu'il existait beaucoup plus de choses que nous ne le pensions. Pour vous donner un exemple, alors que les manuels datant de l'époque des Song, donc des 11e, 12e, 13e siècle, qui ont été préservés, qui existent toujours aujourd'hui, sont en assez petit nombre et ont été répertoriés et réédités depuis longtemps. En revanche, la quantité d'ouvrages publiés sous les Ming, donc essentiellement au 15e et 16e siècle et dans la première moitié du 17e, cette quantité s'est avérée sans commune mesure avec ce que l'on soupçonnait au départ. Et là, je dois saluer le rôle pionnier de notre collègue Thomas Nimick, ici présent, et qui nous en parlera plus tard, avait déjà, même avant que je commence ce travail, qui avait déjà consacré au manuel de l'époque des Ming sa thèse de Princeton, et qui a continué pendant toute la durée du projet à collaborer avec nous et à travailler donc sur les ouvrages des Ming. Monsieur Nimick est, disons, notre spécialiste Ming dans le projet. On peut d'ailleurs se demander pourquoi cette production, et c'est une question intéressante, cette production des Ming était si mal connue. La raison, il me semble, c'est que notre connaissance, d'une manière générale, de toute cette littérature, repose avant tout sur ce qui a continué d'être utilisé et donc réédité à l'époque des Qing, sous la dynastie suivante, la dernière. Parce que c'est d'abord cela qui se trouve un peu partout aujourd'hui dans les bibliothèques. Or, l'abondante littérature didactique produite sous les Ming est presque entièrement tombée dans l'oubli à l'époque des Qing. Elle a cessé d'être utilisée, tout simplement. La principale exception, je pense, c'est l'ouvrage d'un auteur de la fin du XVIe siècle, dont nous parlera demain Monsieur Xieyang, cet auteur étant Lü Kun, un auteur par ailleurs extrêmement connu, dont les écrits ont conservé une grande influence au sein de l'élite administrative au XVIIIe et au XIXe siècle. Et notamment l'ouvrage en question dont il nous parlera, et qui est un manuel, et qui a pour titre le Shezhenglu. Et ceci, pour des raisons d'ailleurs, peut-être la survivance, disons, du Shezhenglu sous les Qing, a des raisons peut-être plus idéologiques que pratiques, dans la mesure où ce qui distingue Lü Kun de la plupart des auteurs de manuels d'administration de l'époque des Ming, en tout cas c'est ce qui me semble, c'est l'accent très fort qu'il met sur l'éthique du fonctionnaire, et sur son engagement personnel au service du peuple, au service du bien-être du peuple et de son éducation morale. Or, ce sont là des valeurs qui ont été considérablement montées en épingle par les administrateurs les plus militants, et je reviendrai sur ce cadre d'administrateurs militants, des 18e et 19e siècles, donc de l'époque des Qing. Par contraste, et là je généralise peut-être un peu, mais je crois qu'on peut quand même le dire, par contraste, la plupart des manuels de l'époque des Ming se signalent par une approche, me semble-t-il, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus factuelle du métier d'administrateur. Voilà, Thomas Nick pourra nous dire s'il est d'accord avec cette affirmation tout à l'heure. Or, à cet égard, ces manuels des Ming ont été assez vite supplantés sur le marché par des ouvrages rédigés cette fois par des auteurs d'époque Qing et plus en accord, des ouvrages plus en accord avec les nouvelles réalités administratives suite du changement de dynastie. Huang Liuhong, l'auteur d'un manuel fort connu qui s'appelle le Fu Hui Quanshu, c'est quelque chose qui signifie qu'on peut traduire par livre complet du bonheur et de la générosité, c'est d'ailleurs un texte que j'ai souvent cité dans mes cours ces dernières années, qui date de la fin du XVIIe siècle, un texte, je le signale au passage, dont des extraits ont été traduits en français dès le début du XVIIIe siècle, par des jésuites bien sûr, sous le titre « Le parfait bonheur des peuples ». Huang Liuhong, donc l'auteur de cet ouvrage de la fin du XVIIe, n'est que le plus connu de ces auteurs de manuels qui ont supplanté en quelque sorte le stock d'ouvrages hérités de l'époque des Ming. Et le résultat, c'est que les manuels d'époque Ming, conservés malgré tout aujourd'hui, sont ce qu'on appelle en jargon bibliothécaire des ouvrages rares, ce sont des shanben, dont les quelques exemplaires, ou même l'unique exemplaire parfois, ayant survécu, se trouve dans les bibliothèques d'Extrême-Orient et dans les collections d'ouvrages rares où il faut essayer d'aller les déterrer. Encore qu'aujourd'hui, ça c'est un point important pour l'historique de cette recherche, les conditions ont beaucoup changé dans la mesure où il y a eu énormément de reprints depuis 10-15 ans, je dirais, sans parler de tout ce que les gens suffisamment ingénieux et industrieux peuvent trouver sur Internet, qui me sidère toujours. Mais encore une fois, en nombre de titres, sinon en nombre d'exemplaires, ces ouvrages Ming sont beaucoup plus nombreux que je ne l'aurais pensé. Et si l'on ajoute à cela que, même sous la dynastie suivante des Qing, nous avons pu repérer un nombre non négligeable de titres qui, jusqu'à présent, n'étaient guère connus, ou même pas du tout, on arrive en fin de compte à un total relativement important. Et en fait, un total beaucoup plus important encore, si l'on prend en compte non seulement le nombre de titres, mais toutes les rééditions. Car, et ça c'est un point auquel je tiens, car la représentativité d'un genre donné, donc ici les manuels pour fonctionnaires locaux, cette représentativité ne se mesure pas seulement au nombre de titres connus, mais aussi au nombre d'éditions différentes de ces titres ou de rééditions qui peuvent être identifiées. D'ailleurs, il y a un autre indice, tout à fait empirique d'ailleurs, sur le succès d'un titre donné, c'est le nombre d'exemplaires qu'on peut trouver aujourd'hui dans les bibliothèques un peu partout dans le monde. Quand vous avez un titre d'un commentaire du code pénal ou d'un manuel pour fonctionnaires locaux que vous trouvez vraiment partout, et parfois en plusieurs exemplaires, ça vous donne quand même l'indication que c'était un ouvrage très répandu à l'époque où il a été, enfin après qu'il ait été publié. Contrairement à d'autres, dont même de l'époque des Qing, même du 19e siècle, dont je n'ai pour ma part vu par exemple qu'un seul exemplaire dans toutes mes recherches. Tout cela concerne donc les manuels pour fonctionnaires locaux, ce qui veut dire essentiellement les manuels pour magistrats, dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, qui étaient en effet au point de départ de mon enquête. Ce sont des ouvrages assez variés, parfois même très variés, dans leur forme et dans le détail de leur contenu. Mais en dépit de cette variété, ils répondent malgré tout à une intention parfaitement définie, et au moins dans la majorité des cas, leur forme présente des caractéristiques qui sont assez aisément reconnaissables. L'intention, pour parler d'abord de ça, l'intention est bien sûr didactique. Quasi par définition, il s'agit là d'ouvrages destinés aux futurs magistrats ou aux débutants, aux apprentis, aux gens inexpérimentés donc, et leur raison d'être, qu'elle soit explicite ou qu'elle ne le soit pas, c'est que les personnes légalement qualifiées pour entrer dans la carrière de fonctionnaire local, c'est-à-dire les lettrés qui ont passé les examens, n'ont absolument pas été préparés à ce genre de métier par la formation qu'ils ont acquise pour passer justement les examens. Certes, ils sont supposés avoir maîtrisé les principes philosophiques et idéologiques qui fondent le gouvernement des hommes dans la tradition chinoise, mais en dehors de cela, ils n'ont que l'idée la plus vague des difficultés techniques, pour ne pas dire des pièges, qui les attendent et qui sont en effet redoutables. Dans la vision la plus extrême, ou pourrais-je dire la plus caricaturale, que livrent de cette situation certains préfaciers en particulier, qui font l'éloge de l'ouvrage qu'on s'apprête à lire, le débutant type est un lettré naïf, plein de beaux principes et très fort pour rédiger des dissertations dans le style requis pour réussir aux examens, mais qui, en dehors de cela, ne connaît rien au droit, ni à la législation, ni aux finances, sans parler de l'art d'imposer son autorité et de manipuler les hommes. Et qui va donc se retrouver sans transition à la tête d'une foule d'agents subalternes qui sont, eux, des vieux briscards de l'administration et qui n'auront aucun mal, justement, à le manipuler et à lui faire faire tout ce qui les arrange. Un manuel bien conçu doit donc alerter le lecteur sur le débutant, sur tous les problèmes qu'il va rencontrer et lui expliquer comment s'en sortir sans dommage et si possible comment devenir un fonctionnaire efficace et respecté, capable d'œuvrer pour le plus grand bien des populations qui ont été confiées à ses soins. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais il devrait suffire de rappeler que dans presque tous les cas, le contenu des manuels pour magistrats se répartit entre deux grandes catégories. D'une part, les recommandations relatives à l'éthique personnelle et professionnelle, ainsi qu'au comportement à adopter vis-à-vis des différentes catégories de personnes avec lesquelles le fonctionnaire va avoir à interagir. Ses collègues, qui ne lui ménageront pas les peaux de banane s'il ne sait pas se faire apprécier, les notables locaux, qui étaient souvent, même le plus souvent, très influents, les gens du peuple, bien sûr, la population ordinaire, qui étaient considérés plus ou moins par définition comme bornés, égoïstes, immoraux et ne voyant que leur intérêt immédiat, qu'il fallait donc éduquer. Et enfin, les relations qu'il aura avec ses subalternes que j'évoquais à l'instant. Et là, les meilleurs manuels sont particulièrement riches en recettes sur les moyens les plus efficaces pour les contrôler et pour les empêcher de nuire, et surtout pour les empêcher de ruiner la réputation de leur patron en le poussant à commettre des illégalités. Donc ça, c'est la première partie de la première catégorie de contenu. Et d'autre part, seconde catégorie, on trouve dans ces ouvrages des chapitres plus techniques sur les principaux aspects de l'administration, la justice, la fiscalité, le maintien de l'ordre, les mesures de sécurité économique dont je parlais au début, développement agricole, irrigation, mesures contre les disettes, etc., voire l'amélioration morale des masses, donc l'éducation des masses, et même l'éducation de l'élite, dont les qualifications morales n'étaient pas toujours à la hauteur de la théorie. Donc voilà pour les contenus. Du point de vue de la forme, ces deux types de contenus se font en général suite. D'abord, on a l'éthique, le comportement, l'art de maîtriser les relations avec les différentes catégories de personnes, etc. Et ensuite, on a la technique, la législation, les procédures, et ainsi de suite. Mais assez souvent, tout cela s'ordonne sous la forme d'une sorte, je dirais, d'arc, correspondant plus ou moins à la chronologie d'un poste. On part des procédures de nomination à la capitale, des préparatifs indispensables avant de se rendre à son poste. On traite ensuite de la prise de poste, si je puis dire, les visites à faire, les rituels à observer, les procédures, ça c'est très important, les procédures de transfert des dossiers et de la comptabilité avec son prédécesseur, avec le fonctionnaire qui quitte le poste, les mesures à prendre et les règlements à édicter dès le début, quasiment dès le premier jour, si l'on souhaite imposer son autorité, et tout cela est mêlé de considérations sur l'éthique du fonctionnaire et sur les comportements qu'il doit adopter. Puis on passe en revue les divers problèmes techniques d'administration que j'ai évoqués tout à l'heure, et parfois on conclut par les procédures de sortie de poste, cette fois-ci, une fois qu'on a fini son temps et qu'on est transféré ou promu ailleurs. En général, les manuels n'évoquent pas le cas où vous êtes tout simplement, si je puis dire, viré de votre poste pour insuffisance de travail. Mais ces circonstances, évidemment, existaient aussi. Donc, tout cela, cet arc que je viens de suggérer, constitue ce que j'appelle la forme standard du manuel pour magistrat, une forme dont on rencontre des exemples dès les premiers ouvrages datant de l'époque des Saumes, et à laquelle correspondent la plupart des titres qui en sont venus à être considérés comme des classiques du genre. Je disais tout à l'heure qu'au tout début de mon projet bibliographique, lorsque pour moi les manuels c'était essentiellement les manuels pour magistrats, J'anticipais que j'arriverais à rassembler et à décrire peut-être une centaine de titres. Et le fait est que, dans son état actuel, la bibliographie, qui nous sert de point de départ, contient à peu près, en effet, une centaine de manuels pour magistrats au sens étroit du terme. Or, le nombre total de titres de toute nature que contient cette même bibliographie, toujours dans son état actuel, est à peu près d'un millier, 10 fois plus. Il y a donc beaucoup d'autres choses que les manuels pour magistrats. Et là, donc, j'en viens à ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire à évoquer l'expansion, non pas simplement quantitative, mais aussi qualitative, qu'a très vite connu ce travail de bibliographique. Et la meilleure façon de se représenter cette expansion en termes de contenu, c'est de regarder le plan de l'ouvrage, donc vous avez en principe tous sous les yeux, tout le monde a ce document, donc sinon on en a encore des exemplaires. C'est de regarder le plan de l'ouvrage rapidement. Alors, ce plan de l'ouvrage est rédigé en anglais pour la bonne raison que la bibliographie elle-même est rédigée directement en anglais. Tout le monde là bon. Donc, si vous regardez d'une manière générale, si vous voulez, ce plan a été élaboré en cours de route. En fait, le travail au début était simplement alphabétique, par ordre alphabétique de la transcription, de la romanisation des titres, ce qui n'était pas illégitime dans la mesure où il existe d'autres bibliographies qui procèdent de la sorte et ensuite qui réorganisent, où on peut réorganiser la matière en partant des index. Mais à un moment où j'avais déjà soumis un manuscrit, alors qui était vraiment un état tout à fait primitif par rapport à ce que nous avons maintenant, à un éditeur, un lecteur m'avait fait remarquer, et après coup j'ai su qui c'était d'ailleurs, avec raison qu'il fallait une organisation. Et donc nous avions passé deux ou trois séances de mon séminaire des hautes études avec plusieurs collègues et étudiants à discuter de la meilleure façon d'organiser ce contenu. Et nous sommes donc arrivés à ça, de façon encore une fois empirique et en s'appuyant sur tout ce qu'on avait déjà vu. Je suis arrivé à ça, en fait, j'ai imposé ça, tout le monde n'était pas d'accord. Et je suis assez content de ce résultat qui tient la route, je dirais, depuis 10 ans qu'on continue à y apporter des matériaux. Je veux dire que j'ai eu vraiment à faire très peu d'adaptations à ce plan ou d'ajouts, de petits changements en cours de route. Donc vous pouvez voir là-dedans que sur cette grande partie, de 1 à 7, vous avez en fait les manuels pour administrateurs locaux au sens étroit du terme qui occupe la deuxième partie, Handbooks for Local Administrators, et là vous voyez que uniquement les manuels pour magistrats se trouvent uniquement dans la partie 2.1.1, et donc comme je disais tout à l'heure, il y a environ une centaine de titres sur un millier au total. Un millier, il y en aura peut-être quelques dizaines de plus en fin de parcours, mais pas beaucoup plus je pense. Donc ça c'est une chose. Je voudrais aussi, pour commenter ce plan rapidement, vous attirer votre attention sur le fait que, d'une façon encore une fois empirique, et si vous me permettez de me décerner quelques compliments, je crois assez réussi, on en est arrivé à combiner des critères de contenu et des critères de forme, ce qui n'était pas évident, de genre, je dirais. Si vous regardez par exemple le titre, la première partie, ouvrage de nature générale, qui concerne, des ouvrages généraux, donc qui visent à donner une sorte de culture de base au lecteur sur les principes éthiques, et non seulement éthiques, mais aussi organisationnels, qui régissent en général le système administratif. Je parlerai en conclusion d'une culture administrative. Ce genre d'ouvrages sont un peu l'arrière-plan, disons, idéologique ou alors organisationnel au sens le plus large du terme, de cette culture. Donc vous avez cette première partie, vous avez ensuite une deuxième partie qui est plus définie par ses contenus, mais aussi par sa forme, les deux à la fois. Je cite au passage la troisième partie, dont il est intéressant, ça c'est quand même un point qu'il faut souligner, dont il est intéressant de voir que les ouvrages didactiques traitant des fonctions, des responsabilités, etc., des fonctionnaires du gouvernement central, qui formaient quand même un nombre, une proportion tout à fait très importante, je dirais beaucoup plus importante que dans nos propres systèmes de l'ensemble de la fonction publique, en tout cas des fonctionnaires du cadre régulier, que les ouvrages s'adressant donc à ces fonctionnaires métropolitains sont en nombre très petit, infime par comparaison avec ceux qui concernent l'administration locale. Et en fait, les ouvrages, je ne les ai pas comptés, il y en a peut-être une quinzaine en tout, dans cette troisième partie, intéressent surtout les fonctions du censorat, institution donc centrale et particulièrement intéressante dans le système chinois. Et ensuite vient cette quatrième partie concernant les ouvrages spécialisés dans des techniques particulières. Là, j'insiste pas pour le moment parce que je vais revenir sur cette partie. Mais alors là, on est tout à fait dans les contenus, sauf que les sous-parties se définissent souvent par la forme, justement. Par exemple, si vous regardez la partie 4.1.2, les présentations du code réarrangées, vous avez les sous-parties, donc 4.1.2.1, 2 et 3, se définissent par la forme uniquement. D'une part, puisque vous avez d'une part le 4.1.2.2 concerne des espèces de petits poèmes qu'on peut apprendre par cœur facilement et qui résument un certain nombre de traits du code pénal en particulier, alors que le 4.1.2.3 concerne des présentations de la réglementation et de pénale et administrative sous forme de tableau synoptique. Et là, il y a une quantité d'ouvrages qui sont apparus à partir, en fait c'est bien circonscrit, à partir du début du XVIIIe siècle, auquel j'ai d'ailleurs consacré un article spécialisé. Donc là, critère à la fois de forme et de contenu. Et de la même façon, la même remarque vaut pour la sixième partie, donc les anthologies de documents administratifs dont je vais parler aussi tout à l'heure, rapidement, et la septième, alors qui est là une définition de bibliographie chinoise tout à fait traditionnelle, sont ce qu'on appelle les tsongshu, c'est-à-dire les collectanea, hein, dit-on parfois en, je ne sais pas en quelle langue d'ailleurs, en latin de cuisine, oui, c'est-à-dire en fait des recueils de textes qui se définissent par, qui peuvent être réunis sur des critères tout à fait variables, mais qui sont des anthologies, si vous voulez. Et là, il y a en effet, c'est un critère purement formel, des anthologies, soit d'ouvrages didactiques sur l'administration dus à un même auteur, soit au contraire des ouvrages venant de différents horizons qui ont été publiés ensemble dans des collections. Donc voilà pour vous pouvez garder ça sous les yeux parce que je ferai encore allusion à certaines parties. Voilà ce qui vous donne, si vous voulez, d'un seul coup d'œil, d'une certaine manière, la structure de l'ensemble de ce contenu. Maintenant, pour essayer de présenter les choses de façon aussi simple que possible, je dirais peut-être qu'il est assez vite apparu que les manuels standards pour magistrats, donc tels que je les ai définis tout à l'heure, ne peuvent pas être considérés isolément. Je dirais que ça n'a en fait pas tellement d'utilité, car en dépit de leur intérêt et de leur variété, ces ouvrages sont très loin de refléter toute la complexité et toute la richesse de la tradition administrative impériale en Chine. Et quand je parle de richesse et de complexité, je pense à la multiplicité des personnels impliqués, à la multiplicité des disciplines administratives qui sont en cause, voire même à la multiplicité des situations sociales, des situations géographiques, ou même des événements historiques auxquels étaient susceptibles d'être confrontés les administrateurs, et cela à tous les niveaux de l'appareil. Les manuels de magistrats contiennent beaucoup de ces choses, que ce soit explicitement ou que ce soit de façon simplement suggérée, disons en germe si vous voulez, et on peut même considérer ce genre comme une sorte de matrice dont dériverait la plupart des autres genres, mais il est indispensable malgré tout d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que nous avons donc fait. Je dirais que le plus grand dénominateur commun des ouvrages qui ont été en fin de compte retenus pour cette bibliographie, et qui ce dénominateur définit en quelque sorte la bibliographie, c'est la didactique. C'est la didactique. Or, dans ces ouvrages, la didactique concerne une grande variété d'agents, de personnel, elle touche à de nombreuses spécialités administratives, et du point de vue de la bibliographie, elle se présente sous un très grand nombre de formats ou de genres. Les agents, d'abord. Le métier de magistrat de sous-préfecture occupe indiscutablement une place tout à fait centrale et tout à fait cruciale dans l'ensemble du dispositif. C'est ce que tout le monde répète, d'ailleurs, répété à l'époque. La fonction de magistrat est la plus difficile de toutes, car parmi les administrés, le magistrat, c'est le magistrat, pardon, parmi les fonctionnaires du cadre régulier, c'est le magistrat qui est directement en contact des populations, des administrés, et il est responsable de tout. Mais il n'est pas seul. Et lorsque je parle de stratification des personnels, j'en parle dans le titre en fait de mon exposé sur le programme, de stratification des personnels, je pense en particulier à tous ceux qui se trouvent en dessous du magistrat et qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les fonctionnaires en titre, les fonctionnaires du cadre régulier. Je parlais tout à l'heure du personnel subalterne, en particulier de ces gens qu'on appelle, en français en tout cas, les commis, en chinois ce serait les chouli, il y a plusieurs appellations, personnel dont la réputation était fort mauvaise, puisqu'on leur attribuait volontiers tous les dysfonctionnements de l'administration chinoise. Je veux dire que les fonctionnaires qui écrivaient sur leurs fonctions se défaussaient en quelque sorte sur les subalternes de tout ce qui allait mal. Mais il n'existe en fait, pour ainsi dire, pas de littérature didactique s'adressant aux commis d'administration. Tout ce qu'on peut supposer, et ça n'a rien d'impossible, c'est qu'ils possédaient malgré tout des manuels à usage interne, qu'ils se transmettaient entre eux, certainement des manuscrits, mais si c'est bien le cas, rien de tout cela n'a été conservé. En revanche, on voit apparaître, dès le début des Qing, une catégorie d'assistants extrêmement importants, et ce sont bien sûr les conseillers techniques, ou comme on les appelle en jargon franglais, de franglais sinologique, les secrétaires privés, et qui en chinois étaient appelés les muyo, c'est-à-dire littéralement les amis de tante, le terme remontant, disons, à l'époque des Han, lorsque les généraux en campagne avaient des conseillers qu'ils emmenaient sous leur tente, justement. Donc le terme est resté, il existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Ces gens, ces conseillers techniques, étaient des lettrés qui s'étaient spécialisés dans certaines disciplines, avant tout le droit et les finances, et qui étaient engagés par les fonctionnaires à titre privé, et salariés par les fonctionnaires à titre privé comme membres de leur cabinet. Ce n'étaient donc pas, strictement parlé, des agents de l'État. Et ils sont rapidement devenus des experts absolument indispensables pour faire tourner la machine administrative, et cela à tous les niveaux de l'administration territoriale. Or, ces conseillers techniques, eux, ont produit une littérature didactique et tout à fait abondante, dont certains titres ne sont pas sans évoquer les manuels pour magistrats, justement. Sauf que cette littérature émanant des muyo se concentre beaucoup plus sur la technique que sur l'éthique. Et là, vous pouvez voir en particulier dans le plan de l'ouvrage, la partie 2.2.1, c'est-à-dire les manuels pour les assistants privés et pour les commis de sous-préfecture. Et dans cette partie 2.2.1, donc s'adressant au secrétaire privé, vous avez donc d'une part des ouvrages généraux qui ressemblent un petit peu, certains d'entre eux ressemblent par leur esprit et leur format au manuel pour magistrats, et les autres sont plutôt des ouvrages spécialisés, soit dans les deux grandes disciplines, c'est-à-dire la fiscalité et le droit. Voilà donc une catégorie d'ouvrages qu'il était indispensable d'inclure, et cela même si elle est poliment ignorée par la bibliographie chinoise traditionnelle, sans doute parce que c'est trop utilitaire et c'est pas assez distingué. On en trouve beaucoup de ces ouvrages dans les bibliothèques aujourd'hui, ce qui prouve qu'ils étaient extrêmement répandus, et on trouve en particulier, ce qui est intéressant, beaucoup de copies manuscrites, qui étaient une façon dont ils circulaient, par copie simplement, c'était une des principales façons par lesquelles ils circulaient parmi leurs utilisateurs. Deux communications, au moins, nous parlerons demain après-midi de ces conseillers techniques, celle de M. Chen Li et celle de M. Chu Pengcheng. Et plus particulièrement, ces deux collègues parleront des conseillers judiciaires ou juridiques qui étaient les plus cotés et qui étaient aussi les mieux payés de tous. À l'époque des Qing, et en particulier au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, ces Ximing Sheye, comme on les appelle parfois, donc ces maîtres en spécialité juridique, se sont montrés extrêmement prolixes en ouvrages didactiques de toute nature, et d'ouvrages qui ne relèvent pas du genre Guanzhen, du genre manuel de fonctionnaire à strictement parler, mais dont il est vite apparu qu'il devait absolument être intégré notre bibliographie. Donc on a comme ça des traités sur la procédure judiciaire, on a des commentaires du code pénal, genre extrêmement important que je crois avoir vraiment bien parcouru, des recueils de jurisprudence, des résumés de la réglementation pénale et administrative présentés sous forme de tableaux synoptiques, etc., etc., de nombreux genres. Et ces travaux, dus à des conseillers techniques, à des secrétaires privés, représentent une grande partie de la section 4.1, donc consacrée au droit, dans la bibliographie. Mais ils ne représentent malgré tout pas la totalité. Par exemple, dans le cas de tous ces ouvrages, les textes datant de l'époque des Ming sont tous dus à des fonctionnaires pour la raison bien simple que les fonctions de conseiller technique n'existaient pas à l'époque des Ming. En tout cas, elles ne sont pas mentionnées, elles ne sont nulle part mentionnées en tant que telles. Et même après cela, même sous les Qing, les fonctionnaires du cadre sont restés très actifs dans la production de textes didactiques portant sur le droit. Et on peut en fait identifier, notamment à travers les préfaces des ouvrages, on peut identifier un milieu de juristes ayant une identité clairement, qui se reconnaissent entre eux, si vous voulez, un milieu qui est composé également, à l'époque des Qing en tout cas, de conseillers techniques, donc de personnes privées d'une certaine manière, de spécialistes privés, et de fonctionnaires du cadre régulier. Et un milieu où, on peut le signaler au passage, les fonctionnaires du ministère de la Justice à Pékin occupent une place particulièrement éminente en tant que juriste et que théoricien du droit souvent. Je n'hésiterai pas à dire que la place considérable occupée par le droit, par les problèmes proprement juridiques et par ceux qui concernent la pratique judiciaire, donc ces deux aspects, théorie et pratique, que la place considérable occupée par le droit dans le dispositif administratif en général a été un peu une révélation au cours de ce travail, en tout cas pour moi. Non pas que ce soit quelque chose d'inconnu, que ce soit une découverte sensationnelle, mais c'est un fait, et les juristes de l'époque impériale le déplorent suffisamment, c'est un fait que le juridique était regardé de haut par une bonne partie des lettrés qui avaient vocation à devenir fonctionnaires. C'était regardé comme une discipline utilitaire, n'ayant qu'un intérêt marginal pour les candidats aux examens mandarinaux, et qu'on préférait justement laisser aux spécialistes. Or, clament ces mêmes spécialistes, exercer une justice objective et équitable est un élément essentiel pour préserver l'harmonie sociale et pour légitimer l'action de la bureaucratie, et par-delà pour légitimer le régime lui-même. Après tout, n'oublions pas que c'est au nom de l'empereur qu'est rendue la justice, et dans le domaine criminel au moins, toutes les décisions doivent en principe être sanctionnées par l'empereur en personne. Vous pouvez noter que dans cette section 4.1, consacrée au manuel spécialisé dans les problèmes de droit, donc vous pouvez déjà voir que cette section est assez complexe, ce qui montre le nombre de genres et de contenus, la variété des genres et des contenus. Mais ce que je voudrais signaler simplement, c'est que, et ce que ne peut pas faire apparaître cette table des matières, c'est que certaines sous-sections et même sous-sous-sections recouvrent en fait un très grand nombre d'ouvrages. Par exemple, si vous prenez la section 4.1.1, que j'ai appelé explication du code pénal, qui sont en fait les éditions du code avec commentaires essentiellement, vous avez facilement une soixantaine de titres. Donc, pour faire ma propre publicité ou la publicité de l'ouvrage, je crois qu'aucune liste dans aucune langue ne rassemble, n'a identifié et surtout décrit de façon satisfaisante, ou pas tout à fait satisfaisante pour tout encore, mais on y arrivera, autant de titres, autant de commentaires du code pénal. De même, si vous prenez la section 4.1.2.3 que j'avais déjà mentionné, les tableaux synoptiques, il y a là vraiment un très grand nombre de titres. C'est devenu un genre extrêmement populaire au XVIIIe et au XIXe siècle. Ou encore, prenez une section à laquelle j'ai consacré aussi beaucoup de recherches, c'est la section 4.1.6, la médecine légale. La médecine légale est une vieille discipline chinoise, et elle a acquis un degré de formalisation et de sophistication considérable à partir, là encore, de l'époque des Song. Le premier grand manuel systématique de médecine légale date du, je crois, tout début du XIIIe siècle, il me semble. Et ensuite, il y a eu donc de nombreuses révisions, éditions, réorganisations de ce contenu, et c'était une discipline tout à fait centrale pour laquelle il existe encore là encore un très grand nombre d'ouvrages qui sont donc, et là aussi je crois que la liste des ouvrages dans notre bibliographie des ouvrages de médecine légale est particulièrement, si je puis dire, réussie. À propos de ce type d'ouvrage d'ailleurs, donc portant sur les techniques particulières, il est important d'introduire, il me semble, une notion qui est distincte dans une certaine mesure de la didactique proprement dite. Cette notion, ce serait celle, je dirais celle d'outils de travail, ce qui désigne en l'occurrence des instruments qui ne sont pas seulement destinés à instruire les ignorants ou les débutants, mais qui accompagnent tout aussi bien les administrateurs les plus expérimentés dans leur pratique quotidienne. Et à partir de là, on se trouve, si vous voulez, au-delà de la didactique, où on peut parler d'une extension de la didactique, sachant que la transition n'est pas toujours très claire, d'ailleurs, entre le didactique et l'utilitaire. En tout cas, le choix qui a été fait pour la bibliographie a été de ratisser le plus large possible, ce qui peut parfois conduire un peu loin des manuels dans le sens étroit, des manuels de fonctionnaires dans le sens étroit du terme. Donc, tout l'essentiel de ces manuels outils de travail sont rassemblés dans la quatrième partie de la bibliographie. Où vous pouvez voir d'ailleurs, alors cette partie est un peu empirique si vous voulez, elle est peut-être moins systématique et moins complète que d'autres, dans certaines sous-parties en tout cas. La partie sur le droit, oui, là on a vraiment énormément travaillé, d'ailleurs comme vous le verrez pendant ces deux jours, c'est devenu une spécialité extrêmement active. L'histoire du droit chinois. En revanche, de même que ce qui concerne l'hydraulique, ce qui concerne l'administration de la famine, numéro 4-3, là, il y a énormément de choses et je crois avoir bien couvert tout le domaine. En revanche, il y a d'autres disciplines sur lesquelles il y a très peu d'ouvrages et on pourrait sans doute améliorer beaucoup le contenu, par exemple tout ce qui concerne les examens et les écoles, l'administration du sel est quelque chose de très spécialisé, les problèmes militaires, là c'est intéressant, on a un de nos collègues, M. Kerlouégan, qui à l'époque faisait sa thèse sur les problèmes militaires sous les Ming, il a changé de sujet depuis, connaissait très très bien cette littérature et grâce à lui en particulier on a une bonne couverture, sachant que la défense et en particulier la défense locale fait partie des disciplines de l'administration en général, y compris de l'administration civile. Enfin, il est une autre notion, outre celle d'outil de travail, qu'il est important d'introduire, c'est ce que j'appellerais la didactique par l'exemple. Concrètement, les ouvrages qui correspondent à cela sont des anthologies de documents administratifs, le terme technique c'est gongdu, hein, tout document administratif, donc c'est ce qui est rassemblé dans la sixième partie de la bibliographie. Et ces anthologies étaient publiées pour servir de modèle aux futurs administrateurs. Non pas tant de modèles formels, c'est-à-dire de modèles de style ou d'argumentation, etc., bien que cette dimension existe aussi, que de modèles de professionnalisme et de bon gouvernement, et de technique aussi. Le bon fonctionnaire en action, si vous voulez, c'est ce que sont supposés représenter ces ouvrages. Le type de textes susceptibles d'être rassemblés dans ces anthologies sont trop nombreux pour que je puisse les énumérer en détail. Mais pour me limiter aux principaux, je citerai d'abord les proclamations dont les fonctionnaires rédigeaient ou faisaient rédiger une très grande quantité, qui étaient adressées à la population, par affichage en général, à la population, mais qui étaient aussi parfois adressées au personnel administratif. Deuxième genre important, toutes les formes de correspondance administrative, et là il y en a vraiment une quantité, que ce soit la correspondance du fonctionnaire avec ses supérieurs, sous forme donc de rapport surtout, ou avec ses inférieurs sous forme d'instruction. Et troisième genre, extrêmement important aussi, et auquel correspondent vraiment beaucoup de titres, ce sont les jugements. Et là, on peut faire une partie entre ce qu'on appelle en chinois plutôt pran, c'est-à-dire des propositions de jugement, surtout en matière criminelle, puisque les fonctionnaires locaux n'étaient pas habilités à condamner et exécuter quelqu'un, il fallait que ça passe par toute la hiérarchie, d'une part, et d'autre part, ce qui était appelé plutôt pi, un mot qui veut dire réponse, tout simplement, et qui sont des arbitrages que rendaient les fonctionnaires locaux, un peu en tant que juge de paix, je dirais, dans des affaires relevant de ce que nous appellerions la justice civile, même si cette notion dans le cas chinois n'est pas toujours très, très satisfaisante. Ce qu'il faut remarquer au sujet de ces anthologies, c'est qu'elles font leur apparition vers la fin des Ming, pour se multiplier, première chose, elles font leur apparition vers la fin des Ming, pour se multiplier considérablement sous les Qing, alors qu'avant cela, les fonctionnaires publiaient parfois sous forme de collection leurs mémoires adressées à l'empereur, ce qui est un genre beaucoup plus noble, mais jamais leurs documents administratifs, d'administration courante. Deuxième remarque, c'est que dans la grande majorité des cas, il s'agit de documents signés par un auteur individuel, par un seul auteur, qui sont basés, dit-il, sur les brouillons qu'il a conservés. En effet, dans cette culture, on conservait des copies de tout. L'action de cet auteur est donc mise en valeur dans sa cohérence et non pas à travers de l'un ou l'autre document isolé. Mais il existe aussi quelques anthologies collectives, en fait, des documents donc émanant d'un grand nombre d'auteurs qui sont classés par genre et qui ont été réunis dans un titre. Et pour des raisons qui ne sont pas, je veux dire, qui ne me sont pas encore très claires, ce genre d'anthologie de documents administratifs collectifs semble avoir été assez populaire pendant une courte période au tout début des Qing, donc la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et là, il y a au moins un titre très connu qui a continué d'être publié jusqu'à la fin de l'Empire, alors que les autres titres, soit que nous connaissons, soit dont nous connaissons justement le titre uniquement, apparemment sont tombés hors d'usage très rapidement. Ce titre très connu, c'est le Zhejixin Shu, qui signifie donc le nouveau livre pour aider au gouvernement, dont l'auteur est également très célèbre, c'est Li Yu. Il est très célèbre non pas comme administrateur, il n'a jamais été fonctionnaire de sa vie, mais comme auteur de théâtre, de nouvelles et aussi comme pornographe, le croiriez-vous. Donc ce Li Yu, qui à l'époque était en fait un entrepreneur de librairie, a publié cet ouvrage qui a été un très très grand succès et qui a été beaucoup utilisé comme recueil de modèles de correspondance administrative. Je dirais qu'il ajoute... Alors, troisième remarque aussi, c'est que toutes les strates de l'appareil administratif sont représentées dans ces anthologies. Non seulement les magistrats, mais également les préfets, donc ceux qui coiffent, entre 5 et 10 magistrats, ça dépend. Les fonctionnaires provinciaux, les juges, les responsables de l'administration provinciale ou de la justice provinciale, les gouverneurs de province également. Mais, là encore, pas les fonctionnaires métropolitains. Et j'ajoute enfin qu'il existe même, à la fin des Qing, quelques anthologies, qui sont toujours des manuscrits d'ailleurs, quelques anthologies de documents rédigés par des conseillers techniques pour le compte de leurs différents employeurs. Car il ne faut pas oublier que c'était vrai sous les Qing, je pense que c'était également vrai sous les Ming, tous ces documents publiés pour l'exemple et signés par un fonctionnaire, en général, c'est pas lui qui les écrivait. Il les faisait écrire, comme les discours des ministres aujourd'hui, il les faisait écrire par ses porte-plumes, qui étaient justement les conseillers techniques. Et à la fin des Qing, certains conseillers techniques se sont dit, ben, pourquoi pas, c'est moi qui les écris, je publie, ou en tout cas je réunis les modèles, donc tout ce que j'ai écrit pour le magistrat X, Y, Z, etc., comme si j'avais été moi-même un fonctionnaire. Et ces anthologies, alors que j'ai découvert en général dans des collections d'ouvrages rares en Chine, qui sont toujours sous forme manuscrite, sont tout à fait intéressantes à étudier. Plusieurs historiens modernes, et je pense surtout à l'historien du droit japonais très célèbre Niida Noboru, ont souligné que les anthologies de Gongdu, donc de documents administratifs, relèvent clairement de la didactique et qu'elles viennent en quelque sorte en complément des manuels proprement dits. Alors que les manuels sont par définition des textes prescriptifs, les anthologies fournissent des exemples concrets tirés de la vie administrative réelle. On peut ajouter aussi que l'intention didactique est très souvent proclamée de la façon la plus explicite, que ce soit par les auteurs eux-mêmes, qui affectent toujours d'être très modestes, ils disent que c'est quelques documents que j'ai extraits de mes archives personnelles, pourront peut-être servir d'inspiration aux collègues, d'ailleurs mes amis ont tellement insisté pour que je les publie, etc. etc. Donc ce genre d'indication, mais vous voyez l'intention didactique, ou alors que ce soit par les préfaciers des ouvrages qui, eux, alors proclament à l'envi que ces admirables documents émanant de la plume, plutôt du pinceau, d'un fonctionnaire d'élite, ne pourront que servir de modèle et de guide, il y a toute une terminologie pour ça, à tous les administrateurs soucieux de bon gouvernement, etc. etc. Autrement dit, l'intention didactique est très claire et elle est proclamée. Mais à ce propos, il faut quand même ajouter, et c'est une dernière remarque sur ce genre, il faut quand même ajouter que là aussi, il peut y avoir une certaine ambiguïté, dans la mesure où, malgré tout, l'intention didactique n'est pas toujours évidente, ou totalement sincère, dirais-je. Certains auteurs peuvent publier leurs documents, je dirais, pour la simple gloriole, pour se mettre en valeur, en montrant tout ce qu'ils ont fait, et donc pour contribuer, entre autres choses, au prestige de leur famille. Ou alors simplement comme témoignage pour l'histoire, sous forme d'un dossier, en quelque sorte. Et ça, c'est surtout le cas lorsque les documents en question concernent non pas tant l'administration courante, banale, que des circonstances exceptionnelles, par exemple en temps de guerre ou de troubles particuliers, ou alors en cas de calamité naturelle. Et là, on retrouve la famine dont je parlais au départ. Ces manuels d'administration de la famine sont souvent des dossiers, justement, correspondant à une action particulière. Mais là encore, la décision prise pour notre bibliographie, a été de ratisser large et de décrire tous les ouvrages de ce type qui nous tombaient sous la main, et il y en a beaucoup, et je pense que nous en avons manqué encore pas mal aussi. C'est un genre qui est devenu extrêmement populaire sous la dernière dynastie. Et de toute façon, autre raison de tous les décrire et de tous les intégrer à la bibliographie, par-delà leur destination didactique éventuelle, par-delà aussi une certaine tendance à la rhétorique ou même au verbiage, dans certains cas, considérés collectivement, ces anthologies de Gongdu, de documents administratifs, constituent un ensemble inestimable de témoignages sur l'administration réelle, dans toutes sortes de circonstances, dans toutes sortes d'environnements géographiques et à tous les niveaux de l'appareil bureaucratique. Pour conclure, parce qu'il faut quand même que je conclue, il y aurait plusieurs remarques à faire à propos de tout ce que je viens de dire. D'abord, après avoir passé tout ce temps à les répertorier et à les examiner, il me paraît clair que si on les considère collectivement, tous ces ouvrages à visée didactique et en même temps orientés pour la plupart d'entre eux vers l'exercice concret de l'administration, que tous ces ouvrages sont la meilleure source dont nous disposions pour essayer de comprendre de l'intérieur la culture administrative de la Chine impériale. Et par ce terme de culture administrative, qui est assurément un peu vague, j'entends la combinaison d'un certain nombre de valeurs, de principes, d'éthique et d'action, de modèles reçus, de normes administratives et juridiques, de techniques aussi, parfois même de trucs ou de stratagèmes. Et en même temps, il faut entendre un sentiment d'appartenance à une profession, avec ses missions et avec ses exigences propres, et non pas simplement d'appartenance à un groupe privilégié par son statut ou par son accès au pouvoir et aux richesses, même si cela est aussi à prendre en compte. Cela étant, peut-on parler d'une culture administrative qui serait en quelque sorte consubstantielle à la forme impériale de l'État en Chine? Je dirais oui et non. Il y a incontestablement des invariants, ne serait-ce que dans le langage et dans la rhétorique, mais aussi dans la philosophie qui préside à l'exercice et à la légitimation même du pouvoir en Chine. Et cela depuis bien avant l'avènement de cette culture bureaucratique de l'époque des Song, dont va nous parler Christian Lamoureux dans un instant. Mais s'il y a des invariants, il y a aussi beaucoup de choses qui changent. Et là, je dirais encore une fois que la somme des textes dont j'ai parlé permet certainement d'y voir beaucoup plus clair. Je veux dire, beaucoup plus clair que si l'on s'en tient exclusivement, comme on le fait, les historiens le font d'habitude, aux sources institutionnelles. Il y aurait d'innombrables exemples à donner, et ce que je ne puis évidemment pas faire aujourd'hui, surtout maintenant. Mais pour m'en tenir à un seul, comprends simplement au contraste que j'ai signalé d'ailleurs tout à l'heure entre le côté plus pragmatique des manuels pour magistrats des Ming et l'orientation plus idéologique d'un certain nombre de manuels de l'époque des Qing et parmi les plus connus. C'est un fait que l'analyse des manuels des Qing est la meilleure façon de percevoir l'émergence à cette époque de ce que j'ai, et je pense que c'est vraiment une émergence qui date de cette époque, 18e, 19e siècle, de ce que j'ai appelé dans d'autres travaux une élite administrative certainement minoritaire, même très minoritaire, mais extrêmement influente, une élite qui a défini en quelque sorte le ton du discours sur l'administration sous la dernière dynastie impériale. Et je signale au passage que cette élite et ses ouvrages connaissent une assez grande popularité en Chine aujourd'hui pour des raisons qui seraient intéressantes d'analyser, mais je ne peux pas le faire maintenant. Les causes de cette émergence sont complexes, mais il faut au moins mentionner une chose, je crois, c'est l'attitude et l'appui des empereurs mandchous, donc des empereurs de la dynastie des Qing, cela depuis Kangxi à la fin du XVIIe siècle et jusqu'à Tao Guang, qui est mort en 1850, donc au milieu du XIXe. Et je dirais que, et là encore, je parle un peu sous le contrôle de Thomas Nimick, je dirais que l'engagement actif, je dirais même insistant de ces souverains en faveur d'un style d'administration à la fois activiste, très professionnel et voué avec parfois une certaine passion à l'amélioration de la condition matérielle et morale des populations, je dirais que cet engagement des souverains des Qing offre un contraste assez net, c'est ce qui me semble, avec l'attitude de leurs prédécesseurs de l'époque des Ming qui était beaucoup plus, se tenait beaucoup plus éloigné de ces aspects. Ce qui est également intéressant et qui, encore une fois, ressort bien de la littérature dont je suis en train de parler, c'est la façon dont ce discours propagé par une élite de fonctionnaires idéalistes a continué de dominer tout le XIXe siècle, alors même que tout indique que l'administration de l'Empire rencontrait alors de plus en plus de difficultés et de dysfonctionnements. Et en même temps, on perçoit, toujours dans cette même littérature didactique, une inflexion en sens contraire. Je veux dire que l'insistance sur l'activisme et la créativité, qui est un peu la marque de fabrique de cette élite administrative, semble doubler à partir d'un certain moment par une tendance à se perdre dans les détails de la procédure et de la législation. Le 19e siècle est l'époque par excellence où prolifèrent ces outils de travail dont j'ai parlé, ces présentations didactiques de la réglementation et de la jurisprudence constamment révisées et constamment perfectionnées, donc auxquelles je faisais allusion. Monsieur Hofstede, qui, comme vous le savez certainement pas, ou peut-être pas tous, est le responsable éditorial des éditions Brill à Leiden, qui publieront probablement la bibliographie. Monsieur Hofstede me disait récemment, après avoir parcouru le manuscrit électronique que je lui avais envoyé, que cela le faisait penser à cette phrase de Tacite, selon qui « Corruptissima Republica plurime leges ». C'est quand la République est la plus corrompue que les lois sont les plus nombreuses. Et il n'y a pas que les lois, il y a aussi les coutumes propres au milieu bureaucratique. Et là encore, le XIXe siècle, la fin surtout du XIXe siècle, voit apparaître un type de manuel de fonctionnaire où une importance considérable est accordée aux préoccupations rituelles et mondaines de la profession, loin donc des exigences élevées du service du peuple qui devrait être son unique souci. Je pense en particulier à un ouvrage que je trouve tout à fait fascinant, qui a eu plusieurs éditions à partir de 1879 et dont le titre est « Huan Xiang Yaozi », qui signifie quelque chose comme « Principes essentiels pour les fonctionnaires en activité et en retraite ». Il y a certes dans ce manuel des sections tout à fait classiques dévolues aux contenus normaux dans ce genre d'ouvrage, c'est-à-dire les tâches publiques du fonctionnaire. Mais la plus grande partie du texte, et de loin, est consacrée aux relations internes au milieu formé par les fonctionnaires et même par les fonctionnaires et leurs familles, aux échanges de civilité et de cadeaux, aux visites à faire, aux innombrables façons de présenter les cartes de visite ou de rédiger les correspondances suivant la position respective des personnels concernés, et ainsi de suite. Par exemple, on vous explique, mais page après page, comment il faut rédiger un en-tête de lettre si vous félicitez le gouverneur pour l'anniversaire de sa grand-mère, si vous demandez un service à tel fonctionnaire, que votre position est celle-ci ou celle-là. Donc, une sorte de rituel, en particulier épistolier, qui est tout à fait surprenant. On tombe en quelque sorte dans le domaine des distinctions sociales et de la correction mondaine. Et s'il en est ainsi, je pense que c'est parce que la sociologie du milieu des administrateurs a considérablement changé à la fin du XIXe siècle, depuis l'époque donc des rébellions du milieu du siècle et aussi des traités avec les puissances étrangères qui ont changé pas mal de choses. En ce sens qu'un nombre croissant de gens accèdent désormais à la fonction publique par la voie vénale ou en récompense de services rendus aux armées et non plus par la voie royale et classique des examens dits confucéens. En d'autres termes, ces nouveaux venus ont tout à apprendre en termes de distinction sociale et il leur faut par conséquent des manuels adaptés à ces nouveaux besoins. Ce n'est qu'un exemple, mais je suis bien obligé de me limiter, je m'arrête maintenant. Ce que je voudrais simplement dire, alors vraiment en conclusion de la conclusion, ou rappeler, c'est que la littérature analysée dans la bibliographie donc, dont vous avez le plan sous les yeux, qui sert de prétexte et qui sert de prétexte à ce séminaire, que cette littérature offre des éclairages précieux sur le monde de l'administration dans la Chine impériale et sur ses évolutions, en même temps qu'elle ouvre de multiples voies de recherche. Et c'est précisément ces voies de recherche nouvelles que vont illustrer aujourd'hui et demain les communications que nous allons écouter. Et je vous remercie pour votre attention pendant cette trop longue communication. Mais il m'a... Outre le fait que je suis toujours trop long, il m'a quand même semblé que, en introduction, disons, à tous ces exposés qui vont être quand même assez spécialisés, souvent, il n'était pas inutile de donner quand même une vue d'ensemble un peu cohérente, un peu complète de toute la problématique.